RMC.
Mount the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est parti, c'est votre rendez-vous basket du mardi, téléchargé sur rmc.fr. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, cette semaine, vous aurez droit à deux Basket Time. Le premier, le voici, et c'est un spécial Tipeee au Hall of Fame, parce que Tony Parker va être le premier Français introduit au Temple de la Renommée. C'est comme ça qu'on dit en français.
Vachement
et on en est fiers. Fred Weiss, bonjour.
Bonjour.
Geoffrey Charpille, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à
tous. Sacha Alix, c'est notre Dream Team de la semaine. Salut
bonjour.
Les gars. Alors je précise que Geoffrey est le Six Man qui remplace Stephen Brun.
Grosse alité. Responsabilité là.
Alité pour une raison obscure que l'on tiendra secrète. Mais tout va bien, vous inquiétez pas.
Oui, des précisions, des temps obscurs déjà.
Nous allons faire un spécial Tipeee au Hall of Fame. Il y aura donc un bonus track, un deuxième Basket Time spécial final de l'Eurocoupe entre l'ASVEL et Galatasaray. Alexia Chartereau est notre invité. Vous téléchargez ce deuxième podcast sur rmc.fr, bien entendu. Alors, le programme du Tipeee Hall of Fame, du spécial Tipeee Hall of Fame, le voici. On a trouvé des débats qui peuvent faire rager les fans de Tipeee, qui peuvent enflammer les fans de NBA, parce que là, on parle de marquer l'histoire. Une place au Hall of Fame, est-ce que c'est plus fort qu'un titre NBA ? Il y a des gens qui sont au Hall of Fame et qui n'ont pas de titre. Est-ce que c'est plus fort ? Et puis, si Tipeee n'avait pas été drafté par les Spurs, serait-il, selon vous, quand même entré au Hall of Fame ? C'est du basket fiction qu'on va faire tout à l'heure et c'est très intéressant. Et puis, dans la partie historique, vous allez me dire si vous considérez que dans la liste des 220 joueurs et joueuses au Hall of Fame, il y a des escrocs. Des gens qui n'y ont pas leur place. Tu dis qu'il y en a.
Moi, t'es dur.
Ah oui. Bah, il y en a.
Plus que d'autres, mais il y en a.
Bien sûr. Mais avec les deux là, qui sont des.
T'inquiète
des
pas.
Haters.
Pour te faire rager, tout simplement.
T'inquiète pas, je vais te soutenir. Tu sais, il y a un vrai décalage de génération.
Oui, je pense.
Les jeunes n'ont aucun respect pour les anciens. Et il y a des noms qu'ils connaissent même pas qui vont dire oh, c'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il fait au FM ? Voilà le programme de notre.
L'imitation de Sacha était pas.
Basket Time qui se terminera par un quiz spécial Hall of Fame. Je suis pas allé chercher très loin. Hein. C'est parti pour Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Et on salue Stephen sur la cuvette de ses toilettes.
San Antonio !
Ce qu'on a vécu à San Antonio, c'est rare.
Tony Parker sera intronisé au Hall of Fame de la NBA l'été prochain. Ce sera le premier Français, hein, puisqu'il y a déjà des Européens, mais ce sera le premier Français. On espère pas le dernier, mais c'est vrai qu'il a le profil, alors que jusqu'à présent, hein, les autres Français, même ceux qui ont bien marché en NBA, je pense, ne seront jamais au Hall of Fame, on est d'accord, bah, Fred,
évidemment
hein.
Que non, Maurice malheureusement,
Dio,
ça a été des
world players, même seront pas.
Il y a eu de très bons joueurs, Joachim Noah a fait des très belles saisons, mais ça c'est sur une petite période.
Peut-être Victor, mais tout
Victor,
reste à écrire.
Ouais, voilà,
est-ce
ça,
que Rudy sera avec tous ses titre de défenseur de l'année.
Je ne pense pas, non.
Je pense que ça se réfléchira. Je ne suis pas sûr qu'il y soit, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y soit pas non plus.
Alors en tout cas, il y sera et la promo 2023 a de la gueule quand même, puisqu'il va faire son entrée au Hall of Fame avec Dwayne Wade, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. C'est quand même une belle petite promo. Tu fais une bonne équipe avec ça. Tu peux prendre n'importe quel cinquième homme.
C'est pas mal. Ouais, c'est moi qu'on puisse dire.
Je peux jouer deux, moi, dans l'équipe ou pas ouais.
Ah, peut-être pas, je prendrais quand même les deux là avant toi. Quand même.
Ouais, en coach, Geoffrey. En coach, ça peut être intéressant.
En coach, ouais, ok, ça marche. Bah, en coach, c'est facile, hein, on vous donne le ballon à Tipeee, fait les systèmes ouais, et vous démerdez. Quoi.
Exactement.
Alors, Sacha, un petit rappel quand même sur ce qu'est le Hall of Fame de la NBA, comment ça marche et qui fait partie de ce Hall of Fame ?
Yes, alors bah, c'est le panthéon des gloires de la NBA. Pour rentrer, il faut avoir pris sa retraite depuis au moins 3 ans. C'est la condition sine qua non. Avant, c'était 5, mais ils ont réduit ce délai-là pour rendre hommage aux joueurs un petit peu plus rapidement. Et après, il y a pas vraiment de conditions. Il faut avoir marqué le basket à sa manière, que ce soit par le palmarès, de par une empreinte culturelle. Il n'y a pas vraiment une liste de critères qui est établie. C'est plus à l'appréciation. La particularité par rapport aux autres sports américains, c'est que tout ce qui est jury, votant, etc. sont anonymes. Là où sur les autres, ils sont connus et ça entraîne des jeux d'influence parfois pour rentrer au Hall of Fame. C'est pas trop le cas sur la NBA, mais voilà. Moi, je trouve que c'est un système qui fonctionne bien.
Mais alors, qui en a parmi les grands joueurs du Hall of Fame ?
Attends, mais il peut y avoir des fraudes. Alors si on prend les noms les plus les noms les plus
non, ça fonctionne bien, mais il y a des fraudes.
Bon, ça on en parlera dans la prochaine
après,
partie.
C'est de l'appréciation, comme je l'ai dit. Si on prend les personnes, et on va penser à Tony Parker, donc forcément il rejoint Manu Ginobili, Popovic qui va être intronisé aussi, Tim Duncan qui a été intronisé en 2020. Après on prend les gros noms, Kobe, Divac, Nash Kidd pour la période un petit peu récente, Iverson, Shaquille O'Neal, Mutombo, Scottie Pippen, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Magic. Enfin bref, tous les grands noms qu'on fait la NBA sont dedans. Abdul Jabbar, Bob Pettit, Bob Cousy, Bill Russell. Enfin, c'est là où on retrouve tous les plus grands. Et après, il y a des noms qui se glissent et tu te dis en termes de grandeur. Voilà.
Très bien. Alors, ça, on fera le débat plus tard. Mais c'était bien de poser les bases. Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'entrer Hall of Fame, c'est encore plus fort qu'un titre NBA ? Fred, qu'est-ce que tu en penses ? Puisqu'évidemment, il y a dans cette liste des joueurs qui ont marqué l'histoire, mais qui ne sont pas champions. Hein.
Ouais, alors, c'est difficile. C'est vraiment difficile, parce que les deux, franchement, c'est un rêve pour n'importe quel basketteur, évidemment. Mais tu te dis que quand tu gagnes un titre de champion, tu te gagnes avec une équipe, t'es secondé, t'es appuyé. On le voit d'ailleurs, il y a des joueurs extraordinaires qui n'ont pas gagné de titre, qui sont au Hall of Fame. J'ai envie de dire que c'est une compensation un petit peu, j'ai envie de dire, le Hall of Fame. C'est-à-dire que tu as une carrière qui est très honorable, tu as marqué ton sport, quelle que soit la manière, comme l'expliquait Sacha, et en même temps, bah, tu n'as pas eu de titre, parce que bah, tu es peut-être tombé dans la période Jordan, tu es peut-être tombé dans les mauvaises périodes, mais malgré tout, tu es quand même un joueur extraordinaire.
C'est donc, un bon point, quoi.
Bah, je trouve que bah, c'est une très belle compensation, en tous les cas.
Mais c'est moins fort qu'un titre, c'est ce que je comprends dans ton argumentaire, quand même, Fred.
Bon, honnêtement, je pense qu'un champion, il préfère gagner bien des sûr. Titres que être honoré à titre personnel. Mais c'est quand même un vrai accomplissement et c'est quand même très très fort de rentrer dans ce panthéon.
Sacha, tu es d'accord ?
Ouais, moi je suis d'accord, c'est une compensation. Typiquement, c'est pour remémorer des noms qui ne seront pas remémorés parce qu'ils n'ont pas été champions. Comme on l'a dit, je pense que Fred l'a très bien résumé, en fait, quand tu as joué à NBA, soit tu es tombé sur Jordan, soit tu es tombé sur Kobe, soit tu es tombé sur LeBron, soit tu es tombé sur les Warriors. Il n'y a pas eu tant de champions différents que ça, finalement, ou d'équipes, ce qui fait qu'il y a plein de joueurs qui vont passer dans l'ombre. Tu prends tous les gros joueurs des années 2000, bah, tu retiendras que Kobe quasiment, parce qu'il les a tous giflés, il a pris tous les titres quasiment qui passaient. Donc, effectivement, c'est pour se remémorer ces noms. Tu peux penser à des T-Mac, des choses comme ça, qui sont des très grands joueurs individuels et qui n'ont jamais collectivement.
Des Chris Weber, par exemple, qui sont des très bons joueurs.
Bon, la différence, c'est que la reconnaissance du milieu, elle peut aller au-delà d'un titre NBA. C'est ça la question. C'est-à-dire que quand.
Mais en fait, tu peux être un très bon joueur.
Quand tu t'appelles Charles Barkley, voilà, ou quand tu t'appelles Karl Malone.
Joueur qui a marqué l'histoire de la NBA à sa manière, sauf que. Bah, encore, pas au mauvais moment.
Que Malone a fini par avoir son titre finalement, non ? C'est ça ?
Karl Malone, non, je crois pas. Parce
qu'il est allé aussi au Lakers.
Il est allé au Lakers, il a échoué aussi.
Il n'a jamais
eu de titre, mais tu te dis.
Ça fait partie de ces très grands joueurs qui n'ont pas eu de
titre. Il marque l'histoire. Ils marquent l'histoire de la NBA à leur manière et ça aurait été dommage de ne pas les récompenser et c'est normal qu'on pense à eux.
Geoffrey, est-ce que c'est plus fort qu'un titre NBA ou pas ?
La question c'était exactement ça et pour moi non, c'est pas plus fort qu'un titre NBA parce que par définition le basket c'est un sport collectif et moi les émotions je les ai en regardant les Spurs, en regardant d'autres équipes jouer, en regardant les Bleus qui sont champions d'Europe en 2013, que ce soit les Spurs quand ils sont champions. Voilà, pour moi c'est pas aussi fort qu'une place au Hall of Fame. Sacha l'a dit, il faut avoir marqué l'histoire du basket de par sa personnalité, de par son palmarès ou autre chose. Alors certes, Tony, il est 4 fois champion NBA, il a totalement sa place au Hall of Fame, mais pour moi, il m'a plus fait vibrer en gagnant avec les Spurs que de par sa nouvelle place au Panthéon du basket. C'est vraiment
moi,
très personnel.
Moi, je ne te rejoins pas.
Pourquoi ?
Enfin, moi, ça me fait énormément. Alors, ça me fait autant vibrer l'un que l'autre. Premier Français champion NBA, c'est magnifique, c'est formidable, tout le monde kiffe. Sauf que Français qui rentre au Hall of Fame, qui aurait pu
non mais j'ai pas minimisé la performance.
Non, non mais ce que je veux dire c'est que pour un basketteur français, enfin pour moi en tous les cas, je vais pas inclure tous les basketteurs français, mais c'est incroyable, c'est génial, c'est quelque chose d'inespéré. On pouvait pas s'attendre un jour qu'il y ait un basketteur français.
Oui mais je suis pas sûr que Tony quand il est drafté en 28e position de la draft, le jour de sa draft, il se dise je rêve un jour d'être au Hall of Fame.
Non, il dit je veux marquer l'histoire.
Le rêve numéro 1, et ben il l'a marqué l'histoire de son sport.
Il le marque grâce au titre, mais grâce aussi au Hall of Fame. Pour moi.
Ça, en fait, ouais, mais l'équipe marque l'histoire. Tony, pour moi, Tony marque moins l'histoire que l'équipe des Spurs. En fait, c'est aussi
mais
ça la. C'est la subtilité, c'est que au
mais
final,
qui fait l'équipe des Spurs.
Non, mais être champion NBA, il y a plein de joueurs qui ne sont pas des joueurs exceptionnels qui sont champions NBA. On est d'accord. Tous ceux qui ont été des role players dans des équipes championnes.
Oui, mais un MVP de finale, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de son club sur les titres, forcément.
Ouais, alors, ce MVP des finales-là, on peut en parler 8
mais si
ans.
Si tu minimises tout aussi, Sacha.
C'est pas question de minimiser. On est sur une série de finales qui se gifle en 4-0. Enfin, tu sais très bien qu'il n'y a pas match, que les Spurs vont gagner. C'est limite à la courte paille à qui veut prendre le MVP.
Ouais, mais Tim Duncan n'a plus rien à prouver. En fait, si l'équipe
regarde
joue bien.
Regarde les feuilles de stats, tu verras qu'il n'y a aucun doute sur qui est MVP des finales.
Bah oui, mais parce qu'il y en a un qui a décidé de jouer plus que les autres, qui a décidé d'enfoncer le clou. Bah parce que, non, mais parce que, est-ce que les Spurs étaient en difficulté face à cette équipe de Cleveland pour prendre le titre?
Mais pourquoi ils sont pas en difficulté? Peut-être parce que Tony aussi jouait très
parce
bien.
Que Tony met 60 mais... points par match. Mais parce qu'ils sont au-dessus de ouf en fait. Parce que Cleveland
mais
c'est
mais une équipe de ouf. Parce que Tony aussi fait une performance.
Mais parce que LeBron tout seul aussi en face.
Oui, mais il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière. C'était Pierre qui prenait l'exemple à l'époque du Tipeee Show. Tony, toi, t'as dit à l'époque, un jour, Greg Popovich les a réunis dans le vestiaire et il a dit je vais donner les responsabilités à Tony.
Cette saison-là, Popovich a pris la décision que l'option numéro 1 serait Tipeee. Ça se termine par un titre, un 4-0 en finale et une récompense de MVP des finales. Bon, je vois pas trop ce qu'il y a à contester sur le fait qu'il a été l'homme de la saison 2007 en fait, Tony Parker. Une saison, c'est pas 4 matchs de finale. Déjà, mettre un 4-0 en finale, c'est exceptionnel.
Exactement.
Déjà, première chose.
Enchaîner 4 victoires sur une équipe,
et ensuite, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'est pas arrivé là par hasard. On a dit, tiens, bon, pff, on a personne à qui le donner, on va lui donner à lui. Non.
Non,
il n'y avait pas de doute.
C'est
un
MVP qui est le même que celui d'André Iguodala, alors on est d'accord.
Mais pas du tout. Question.
Ah bon ? Ouais, pourquoi ?
Parce qu'il était le joueur majeur de la franchise.
Il vient tout expliquer. Dominante. Dès le début de saison, on a expliqué que c'était lui le leader de l'équipe et que Popovic voulait que ce soit lui. Et jusqu'au bout, il l'assume.
Par contre, là, on est en train de faire le mauvais débat. Hein. Donc, on va revenir à. Parce que là, on est en train de faire le deuxième débat. Donc, on va revenir à notre question initiale. Est-ce qu'un titre NBA, c'est plus fort qu'entrer Hall of Fame? Moi, ce que je comprends de tes arguments, Fred, c'est qu'en fin de compte, il y a la compétition. Ça, c'est une chose et c'est évidemment l'essentiel pour tout le monde.
Bien sûr.
Mais le fait d'entrer au Hall of Fame pour un joueur comme Tipeee, c'est-à-dire un joueur qui n'est absolument pas programmé pour ça, bon, puisque tu le dis toi-même, un Français au Hall of Fame, c'est complètement dingue, ça a une dimension qui est, comment dire, en dehors de la compétition en elle-même. C'est-à-dire que c'est...
Ça va plus loin.
Ça va plus loin.
Oui, ça va plus loin, bien sûr.
C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, ce joueur-là, il est hors norme, il a quelque chose en plus. Alors après, est-ce que ça vaut plus qu'un titre ou pas? Je ne sais pas, mais c'est à considérer. C'est-à-dire que peut-être qu'entrer au Hall of Fame, c'est encore plus fort pour un non-américain, finalement.
Mais je pense que oui, mais après, avec Sacha, on a eu cette conversation. Lui, il pense que c'est plus simple quand on est pas américain.
C'est
justement
possible.
Il n'y a que 23 membres du Hall of Fame qui sont non-américains.
Qui ne sont pas nés aux États-Unis.
C'est pas beaucoup qui sont pas nés aux États-Unis. Donc, effectivement, la récompense pour un non-américain de rentrer au Hall of Fame, elle est exceptionnelle. Il mérite totalement son titre. De là à ce que ce soit plus fort qu'un titre NBA, moi, je ne le pense pas.
En fait, ça dépend. Un titre NBA, joueur de l'ombre, ça ne sert pas à grand-chose, mais un joueur majeur qui a été important, je pense que c'est plus important.
Malgré tout, tu vois, pour un mec qui n'est pas champion, je pense qu'entrer au Hall of Fame, c'est génial. Mais je pense qu'ils tous, ils échangent leur place au Hall of Fame contre une bague.
Ah bah évidemment.
Bien évidemment. Évidemment.
Bon, donc ça règle un peu la question.
Mais
quand même,
c'est pour ça. Oh, c'est une compensation quelque part pour ces joueurs-là.
C'est une récompense.
Bah, c'est pour pas qu'ils soient oubliés, je pense vraiment.
Oui, c'est
parce qu'ils seront pas dans les livres d'histoire parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de MVP de finale.
Après, attention, je pense qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le même regard que nous. Je pense pas qu'aux États-Unis, tu puisses dire c'est une compensation, c'est pour pas être oublié. Non. Je pense que c'est parce qu'ils considèrent que Allen Iverson, que Carmelo Anthony, ou je sais même pas s'il y est déjà d'ailleurs, ben non, il doit pas y être, parce qu'il joue encore. Mais il y sera sans aucun doute. Que ces mecs-là ont marqué l'histoire et finalement, peu importe leur palmarès. Ouais. Moi, je crois que les Américains réfléchissent pas du tout comme nous sur ce
même Dwight Howard hein,
oui mais moi je parle du positionnement du joueur quand il reçoit ça pour lui c'est une il est très content mais c'est une forme de compensation de sa carrière en disant j'ai quand même marqué mon sport malgré le fait que je n'ai pas de titre
je suis pas sûr
ça dépend des joueurs
je pense que le terme compensation comme tu dis il correspond bien à l'image qu'on a nous de ce genre de choses mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce que ça représente aux États-Unis. Je pense. Hein.
Aux États-Unis, la place de Tony, on en parlait avec Sacha un petit peu hier, elle est un petit peu remise en cause cette entrée au Hall of Fame alors qu'en France absolument
mais par qui
pas. Parce que des spécialistes, des médias qui trouvent que cette place est un peu usurpée. Alors certes, il a gagné ses 4 titres, mais voilà, il ne fait pas l'unanimité lors de cette entrée au Hall of Fame.
Moi, je peux comprendre. Je pense que le regard américain, après, nous, on le voit avec nos yeux de Français. Donc forcément, c'est quelque chose, tu l'as dit, Fred. Pour un Français, pour toi, tu es Français, c'est un joueur français, c'est un truc de ouf. Pour un Américain, c'est un joueur de basket comme les autres, entre guillemets, limite même moins fort, parce que tu as le prisme américain qui te fait dire que l'Europe, c'est un peu en dessous. Donc tu te dis, bah attends, à cette époque-là, il y a quoi comme meneur? Attends, mais Chris Paul, Deron Williams, tous ces mecs-là, ils étaient au même niveau que lui, pourquoi ils sont pas là?
Oui, mais c'est bien la différence.
Chris Paul, déjà, parce qu'il a pas arrêté.
Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais je pense que dans les yeux d'un Américain, Tony Parker, jamais été le meilleur meneur, par exemple.
Ouais, mais je pense que au deuxième débat, parce que justement, l'exemple de Deron Williams, c'est excellent. Parce que des Deron Williams, bon, qui a été un joueur magnifique, hein, il y en a eu plein dans l'histoire de la NBA, mais des Deron Williams, entre guillemets, un 4 fois champion NBA, je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça.
C'est clair, c'est ce qui change.
Donc, ça va changer le regard qu'on a sur Tony Parker, forcément, et on va vite passer au deuxième débat, parce que je sens que Sacha est bouillant. C'est Basket Time, et c'est à télécharger tous les mardis sur rmc.fr.
Which brings us to the San Antonio Spurs now, who have the final pick of the first round. You see that they have Commissioner David Stern.
With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris, France.
So Tony Parker shakes the hand of Commissioner David Stern as the final first round pick of the draft.
I just said I'm very happy to play for San Antonio Spurs. Thanks, a good team for me. And I want to say thanks to my family, my father, and everybody who works for me.
Il était déjà prêt pour la NBA, ouais, hein, bon discours, bien américain, et bravo. Et bravo Tipeee, parce qu'on l'a entendu quand même, 19 ans, il arrive en NBA, il dit c'est un très bon club pour moi.
Tu vois, la mentalité... Mais il faut se rappeler quand même que Tony Parker a été, à l'époque, c'était le plus jeune meneur titulaire de NBA, juste pour...
Au bout de quelques semaines.
Ouais, au bout de quelques semaines, c'est quand même très impressionnant.
La question est un peu perverse, je vous le concède, c'est une question qui prête au débat. Si Tipeee n'avait pas été drafté par les Spurs, serait-il entré au Hall of Fame? Alors, on ne demande pas si Tipeee n'avait pas été drafté par les Spurs, aurait-il fait les mêmes carrières? Parce que la réponse est évidemment non. En mieux ou en moins bien, on ne sait pas, mais l'intérêt n'est pas de se poser cette question-là. Mais aurait-il été aussi performant? Aurait-il été aussi influent? Est-ce que les Spurs ont fait Tipeee ou est-ce que Tipeee a fait les Spurs? C'est tout ça dont on va débattre. Est-ce qu'on donne d'abord la parole au procureur général?
Bien sûr.
Sacha, tu peux y aller.
Pour moi, non. Parce que Tony Parker, je pense qu'il a été une incarnation. Il a été formé à la Spurs. Il a réussi à y mettre sa patte quand il le fallait. Et au final, il n'a jamais été vraiment le franchise player de cette équipe. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, même sur la saison. Vous dites qu'il a les responsabilités, etc. Ça devient un leader. Ça ne devient pas un franchise player pour moi. Je pense que les autres joueurs, un Duncan, etc., est beaucoup plus surveillé que les autres à ce moment-là. Je regarde un peu la meilleure saison de Tony Parker en carrière. Elle est en dessous d'autres meneurs, en fait, à chaque fois. Son meilleur classement MVP, c'est 8e. Il est derrière 2, voire 3 meneurs. En fait, il n'a jamais été dans la discussion des meilleurs meneurs de la NBA. À chaque fois qu'il a été là, c'est un profil qui était différent quand il arrive en NBA. Les meneurs, c'est plus des scoreurs-passeurs, mais plutôt des passeurs qui gèrent le jeu. Lui, c'est un scoreur. Après, le jeu évolue et on arrive sur des meneurs qui sont très scoreurs, mais il n'est pas aussi scoreur ou passeur que ces mecs-là. Et en fait, il a toujours été dans cet entre-deux. Et finalement, bah, tu te rends compte que son meilleur classement et sa meilleure saison en carrière, elle arrive au moment où on est dans la transition de ces anciens meneurs, les Nash, les Kidd, les André Miller, etc. Et après, tu arrives vers les Chris Paul, les Deron Williams, les Derrick Rose qui arrivent, les Russell Westbrook, tu sais très bien qu'il a, parmi ces noms-là, entre nous, il n'existe pas. Ça n'a rien à voir.
T'es dur là.
Bah non, mais je veux. Attends.
Non, mais franchement, en plus, il était vraiment mauvais ce joueur et il a servi à rien.
Non. Alors maintenant, on va remettre les choses en place. Tony Parker, c'est un super joueur de basket. Moi, je l'adore, mais j'aime encore plus. J'adore Tony Parker, mais j'aime encore plus le basket. Et c'est important de remettre les choses en place au niveau du basket. Et le problème, c'est que Tony Parker. À aucun moment tu peux dire
ça s'appelle qu'il... un CSC ce que tu viens de faire là,
mais
je
non
pense.
Parce non.
que c'est justement l'argument qu'on peut t'opposer, mais vas-y termine.
Bah non, mais parce que là je suis désolé, Tony Parker il profite vachement du système des Spurs où tu sais que t'es dans un monstre à trois têtes. Tu sais que de toute façon les regards ne sont pas que sur toi, etc. Il a pris ses responsabilités à un moment. De toute façon, sa carrière pour moi elle est découpée en deux. Il y a le moment où c'est un élève des Spurs, il y a un moment où il commence à mettre sa patte sur les Spurs et il devient le leader de l'équipe de France. On sait comment ça se passe, ça devient un joueur vraiment incroyable à ce moment-là. Mais dès que Kawhi arrive, bah, c'est plus lui patron, c'est Kawhi le patron. Donc finalement c'est un espèce de c'est un boss de transition. Donc je pense que ce rôle-là, il l'aurait jamais eu dans une autre équipe. C'est un peu, si je dois faire un parallèle avec un joueur actuel, je pense que si Draymond Green n'avait pas joué aux Warriors, ce ne serait pas le joueur qui serait non plus. Et c'est exactement le même cas. Je suis.
Alors, vas-y, Fred, tu pleures. Je ne sais pas si de rire ou de dépit, mais tu pleures.
Je pleure de dépit. Parce que justement, tu l'expliques dans ton analyse, tu dis, il fait partie de cette aigle à trois têtes des Spurs et il est effectivement pas sous les feux des projecteurs. Mais peut-être qu'il a eu cette capacité aussi justement à ne pas l'être et à exister malgré les monstres qui étaient autour de lui. Quand tu joues avec un Tim Duncan, quand tu joues avec un David Robinson, t'es pas un monstre, toi, t'es un enfant, t'es un bébé. Et ces mecs l'ont respecté. Et ils ont dit, grâce à Tony Parker, ces mecs qui sont des joueurs incroyables, disent, grâce à Tony Parker, on a gagné les titres.
Mais tu crois que vraiment quelqu'un qui joue aux Spurs va dire bah non c'est pas du tout grâce à Tony Parker.
C'est pas quand on lui leur pose
de
la
dire,
question.
Il faut qu'il s'impose.
Oui, non
c'est
pas
que
quand
te dis, Fred.
Il s'est imposé, il arrivait, Tim Duncan lui parlait pas au début. Il disait c'est qui ce blaireau qui va me porter mes valises.
Non mais
sauf
attends,
il a réussi à s'imposer et effectivement tu parles du meneur qui avait le ballon.
Mais dans ce cas-là, on félicite Mario Chalmers alors. On félicite Mario Chalmers qui s'est imposé au Heat en tant que meneur titulaire. C'est ça qu'on fait. Mais c'est la vraie question. Je veux dire, est-ce qu'on félicite on félicite tous les meneurs qui sont imposés à leur poste.
Mais non, mais pas du tout. Tu t'imposes dans un système où t'es joueur majeur malgré le fait que tu sois pas la superstar de l'équipe au départ.
Mais tu deviens un joueur majeur parce que les gens déclinent autour de toi.
C'est là où. En fait, très bons arguments, mais comme tous les gens qui ont du mal à considérer Parker comme un très grand joueur, il y a toujours un moment où vous basculez dans la mauvaise foi.
c'est
ça qui est terrible. Alors, je te répondrai moi, mais d'abord Geoffrey.
Le problème, Sacha, c'est que tu sais combien je t'apprécie, mais Mario Chalmers, il ne sera jamais dans la course pour entrer potentiellement un jour au Hall of Fame. Là, Tony, il l'a fait, il a gagné 4 bagues NBA, il a été 6 fois All-Star. Mais pour répondre à la question, savoir si Tony n'avait pas été drafté par les Spurs, est-ce qu'il aurait eu sa place au Hall of Fame? J'ai tendance à te rejoindre un peu, juste pour un argument, Greg Popovich. Parce que pour moi, Tony, il est tombé dans la bonne équipe avec le bon coach qui, dans le système européen, a permis à Tony de s'émanciper, à trouver des responsabilités et à le faire travailler beaucoup.
Je te rejoins
un peu. Saison, non. Il ne met pas un tir extérieur,
Tony. Je
ne veux
pas te dire que tu as complètement tort, mais je ne veux pas te dire que tu as raison.
Ah,
tu sais
c'est
pourquoi
pas mal déjà.
Tu sais pourquoi? Parce qu'effectivement, il a eu la chance de jouer, il a eu la chance de commencer les matchs, sauf qu'il a répondu présent aussi.
Ah, bien évidemment.
Ce que je veux dire, c'est que si peut-être que dans une autre équipe où le meneur se blessait.
C'est essentiel.
Tu vois ce que je veux dire? Lui était capable de jouer, il était capable d'assumer la pression.
Ouais, mais
il a eu
des millions de mecs.
Il l'a saisi. Right man at the right place.
Il a eu des millions de mecs. Attends, si ce mec n'est pas français. Vous allez me dire qu'un mec à qui on donne un rôle de titulaire et qui assume ses responsabilités, c'est un truc de ouf en NBA, ça se passe tous les jours.
C'est vrai que tous les jours, il y a des mecs qui ont
4 titres.
Il y en a plein.
Non, tous les jours, il y a un mec parce qu'il y en a un autre qui se pète, qui arrive et qui prend ses responsabilités. C'est l'histoire de quasiment tous les jours en NBA.
C'est la globalité de sa carrière. C'est toi, tu prends un fait en disant c'est tout. Non, c'est
non, attends, là, on prend le fait. Le mec est drafté au premier tour. Il arrive à être titulaire, il arrive à jouer au basket. Waouh, c'est un accomplissement. C'est ce qu'on attend de toi.
Joueur le plus jeune, le meneur le plus jeune titulaire quand il a commencé à jouer au basket, Tony Parker. Meneur titulaire le plus jeune.
Bah, je vais te dire un
truc. Écoute bien ça. Meneur titulaire le plus jeune.
Moi, je trouve que tu as des bons arguments, Sacha. Mais il y a un problème. Et là, je pense que c'est un problème qui dépasse largement le cadre de notre débat. C'est le problème de l'évolution actuelle du sport de haut niveau. C'est que tu fais du basket un sport individuel. C'est-à-dire que c'est des raisonnements comme ça qui font qu'aujourd'hui, on magnifie des joueurs qui sont incapables, malgré tout leur talent, d'être champions NBA ou d'être des joueurs majeurs dans une ligue majeure, malgré un talent exceptionnel qui est probablement supérieur à celui de Tony Parker. Des Russell Westbrook, des James Harden et des mecs comme ça. Le problème, c'est que l'intelligence collective, l'intelligence situationnelle, toutes ces qualités que Tony a, eh bien, ça en a fait ce joueur exceptionnel qui va entrer au Hall of Fame. Je veux dire, si les trois joueurs majeurs des Spurs ont accepté toute leur carrière de gagner moins qu'ailleurs, eh ben, bravo à eux. Et moi, je te défie de m'affirmer que si Tipeee avait pris un contrat max à OKC, à Miami ou je ne sais où, il n'aurait pas eu des stats à 30 points, 15 passes et 10 rebonds. Je te mets au défi de m'affirmer qu'ils n'auraient pas été capables de le faire. parce que tu n'en sais rien, parce que Tipeee, il a fait le choix de cette carrière-là, et franchement, je vois pas qui peut lui reprocher, parce que quand tu finis avec 4 titres et que tu as succédé à Tim Duncan pour finir MVP des finales 2007, et ben bravo à toi, et si Chris Paul a jamais été capable de le faire, et ben c'est parce qu'il est moins bon, globalement, même s'il a peut-être plus de capacité technique. Techniquement, peut-être qu'il y a 50 meneurs meilleurs que Tipeee, mais la technique est une des composantes du sportif de haut niveau. Le mental en est une autre, l'intelligence en est une autre, le sens collectif en est une autre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est, c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui il est sanctifié par les Américains et qu'il va entrer au Hall of Fame. Et ça, vous, et ça, c'est à force de ne voir que les capacités individuelles, que le sport collectif part en couille et que la Ligue des Champions devient une ligue qui est ingérable parce qu'on veut maintenant en faire carrément une ligue fermée parce qu'il n'y a plus que le fric et les performances individuelles qui comptent. Américains savent gérer ça. Non, ils savent gérer de magnifier les capacités individuelles d'un mec tout en faisant un business incroyable et contrôlé. Mais c'est une évolution du sport qui est stupide. Parce que le sport collectif doit rester avant tout collectif, et c'est ça que magnifie un joueur comme Tony Parker, c'est tout.
Eh ben, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, et pour autant, je pense que tu oublies un détail qui n'est pas négligeable, et particulièrement quand on est dans un système comme celui de la NBA, c'est le système des franchises. Je pense qu'aujourd'hui, si tu prends, si tu me cites, vas-y, je sais pas, toutes les franchises qui ont été championnes sur les 20 dernières années, tu n'auras pas tant de noms que ça. Et en fait, c'est pas une coïncidence, c'est juste qu'il y a des organisations qui savent gagner. D'accord. Donc Chris Paul, il a jamais été dans une organisation qui sait gagner, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, les Spurs. Tu me dis les Spurs,
pas dénoyer un mec qui cinq fois dans sa carrière a eu des big teams, des méga teams.
Mais pas du tout en fait. Mais pas du tout, c'est un constat. C'est un constat que c'est un travail d'équipe qui se fait sur le terrain, qui se fait sur le terrain et qui se fait aussi dans la gestion de ton équipe.
Et je pense qu'il a réussi à se mettre dans le puzzle, finir le puzzle et être la pièce parfaite.
Mais tu penses que si tu joues pas aux Spurs, ça devient à l'esprit automatiquement je vais réduire mon salaire parce que j'ai envie d'avoir un titre. Tu penses que automatiquement t'as un coach qui s'appelle Greg Popovich qui
d'abord,
va te,
il l'a
qui va te donner les clés, déjà
tu
vas te drafter.
Mais on parle pas de la même chose là, tu parles d'un mec qui serait plus fort que Tipeee. Qui te prouve que Tipeee, s'il était parti de là, il aurait eu une autre façon de penser vu ses qualités, vu qu'il a affiché? Est-ce qu'il aurait pas été à 30 points de moyenne?
Ok, mais qui me prouve que Chris Paul aux Spurs il prend pas 6 titres? Personne.
Eh oui, non, oui, parce que le problème, c'est que Tipeee, s'il avait eu ce logiciel-là, au bout de 5 ans, il aurait dit aux Spurs, allez vous faire foutre,
mais
moi,
on
je vais aller à New York, ben
non,
prendre 45 millions
Pierre,
par saison.
On peut pas dire ça.
Mais bien
on
sûr
peut pas
oui.
dire ça, mais non.
Mais
je veux dire, les Spurs, c'est une des meilleures organisations de l'NBA. Je veux dire, c'est une histoire, ça s'appelle une dynastie. Ouais, c'est un nom. Non, là, si ça s'appelle une dynastie, c'est que les mecs, ça fait des années que ça fait.
Je vois pas en quoi tomber dans une bonne franchise limite le mérite d'un mec. En fait, c'est ça, c'est
ça limite pas le mérite.
Mais tu peux. Dont tu l'exprimes.
Mais
c'est
tu
le
peux pas occulter le rôle de l'organisation en fait.
Oui, mais
pourquoi il y a des
de
joueurs incroyables qui gagnent
oui, mais
jamais.
Ça n'enlève pas de qualité au mec, ça veut pas dire qu'il est pas incroyable, c'est juste qu'il a réussi, c'est encore plus fort, à s'adapter.
Peut-être qu'il a un peu de chance, soit, mais je vois pas en quoi.
Mais attendez les gars, vous êtes en train de
si
me dire ça, comme
Chris
demain, je vais voir un Américain, je lui dis, quel joueur européen t'a marqué dans ta vie en NBA? Je vous jure, personne me dit Tony Parker. Dirk Nowitzki, Pau Gasol, tous ces mecs-là, ils vont venir avant lui.
Le troisième, c'est qui?
Bah ce sera lui, mais ce sera le troisième.
Ouais, mais chacun
ce sera le troisième, comme ce sera le cinquième à chaque fois qu'on parlait des meneurs de son époque, comme ce sera comme ce sera le huitième au classement du MVP sur sa meilleure saison en carrière.
Oui, mais tu vois, être dans une bonne franchise, ça minimise ses exploits aussi. Parce que tout le monde pense comme toi en disant, de toute façon, il était bien entouré, c'est une bonne franchise, tout se passe bien, donc ça minimise ses exploits. Sauf que ça n'empêche pas que le mec est extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire?
Le problème,
c'est qu'il est dans le bon endroit. C'est pas parce qu'il gagne des titres, parce qu'il est bien entouré, qu'il est mauvais. Enfin,
à quel moment j'ai dit qu'il était mauvais? Je lui ai dit que c'était un joueur de pro B. Arrêtons un peu.
Attention, respectons.
Ah, c'est-à-dire que le joueur de pro B est mauvais.
À Mario Chalmers, c'est un peu exagéré, quand même.
Bah non, mais en fait, on est dans un cas où, au début, c'est un joueur de complément, c'est un role player, Tony Parker.
Au début, pendant 15 jours, c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que
non,
le mec,
au début,
18 ans, NBA, pas un échec.
Les gars, je vous pose une question, est-ce que c'est un role player au début? Est-ce que c'est annoncé que c'est le futur de la franchise ou pas?
Bah non. Mais
bien sûr que non.
Donc voilà, il a un rôle mineur dans une organisation qui travaille bien.
T'es d'accord avec moi? T'es en train de donner du crédit à Tony Parker?
Mais bien sûr, mais je ne veux pas lui cracher dessus en fait. Mais on va arrêter de me dire que Chris Paul il est moins beau que lui
mais
en fait.
Mais qui a dit ça?
Ben, on vient de le dire il y a deux secondes.
Non, non, on n'a pas dit ça.
Le problème de Chris Paul,
il a pas réussi à gagner un titre. Et de ce fait, ben, pour moi, alors, il descend un peu dans la hiérarchie.
La comparaison avec Chris Paul, on est dans un débat sur le Hall of Fame. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ailleurs, qu'aux Spurs, il serait rentré au Hall of Fame? Bon, moi, je pense qu'il avait tout à fait les capacités pour faire une carrière qui l'aurait emmené au Hall of Fame. Bon, tu peux ne pas être d'accord, on ne saura jamais. Maintenant, un mec comme Chris Paul, excuse-moi, si tu me parles de l'organisation des Spurs, Chris Paul, il a eu dans sa carrière 4 ou 5 fois l'occasion au sein d'une méga team d'être champion NBA. Donc je ne vois pas ce que Tony Parker a à envier à Chris Paul, parce que des moyens, je pense que Chris Paul, il en a eu encore plus. Des chances, il en a eu encore plus. Parce que quand tu es champion avec, avec Bruce Bowen, avec Stephen Jackson ou je ne sais pas qui, c'est des super joueurs. C'est des super joueurs. Mais c'est, je veux dire, le casting des équipes de Chris Paul a absolument rien à envier à ces joueurs-là. Donc il y a un moment où Tony Parker a du mérite et où ces Spurs ont du mérite, et qu'il faut reconnaître ça et dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a aucun bémol à mettre à la carrière de Tony Parker. Je n'en vois aucun. 18 ans, il est parfait de A à Z. Bon, peut-être la fin à Charlotte est naze, peut-être, mais c'est vraiment minime, quoi. C'est vraiment mineur, quoi.
On reprend la question, donc pour vous, Tony Parker, il ne se fait pas drafter aux Spurs, donc son coach, ce n'est pas Greg Popovich, donc pour vous, il est titulaire à 19 ans aussi.
C'est-à-dire,
ça veut dire que s'il n'est pas drafté aux Spurs, pour vous, direct,
mais ça prend un peu plus de temps.
C'est là où le rôle de l'organisation. Mais c'est là où l'organisation est hyper important. Là, on parle de Chris Paul. Chris Paul, il a joué aux Rockets, c'est aux Clippers.
Il est impossible de déterminer.
Au début, c'est un débat science-fiction.
C'est quand même très simple.
On peut rien prouver là.
Mais oui, c'est ça.
Non, mais je peux rien prouver.
Vous êtes en qualité, aucun joueur ne s'impose ni à San Antonio, ni à New York, ni aux Nuggets. Donc, bon, peut-être qu'il s'il avait fini à Minnesota, il aurait fait la même carrière. Qu'est-ce que t'en sais?
Dans sa panoplie de jeux, vous allez me dire que si Tony Parker joue meneur dans une équipe, il n'y a pas Tim Duncan, il n'y a pas Manu Ginobili, donc les regards sont concentrés sur lui, c'est le joueur majeur de l'équipe.
On va se dire, il est peut-être à 30 points de moyenne.
On va se dire, c'est lui qu'il faut défendre. Et il est peut-être à 10 points de moyenne aussi.
Justement.
Mais oui, mais c'est pour ça que c'est de la fiction, on ne peut pas savoir. Sauf que vu ses qualités intrinsèques, il met 15 points de moyenne.
Et moi, je peux te dire qu'il défend personne en plus. Moi, je peux te dire que les mecs, ils vont attaquer fort sur lui parce qu'ils savent que défensivement, c'est peut-être un des meneurs, là, dans tous ceux qu'on a cités, qui en défense étaient parmi les plus nuls.
Il faut le dire.
Ah, parce qu'à la fin, ça devient un gros défenseur.
J'ai pas dit que ça devient un gros défenseur. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Dans ses premières saisons, défensivement, c'est très compliqué.
Mais son shoot, il est cata au début, même lui, il l'a dit.
En fait, tu nous donnes des arguments. Il a progressé, il a réussi à élever son niveau.
Il a progressé parce que les Spurs ont cru en lui et parce que les Spurs sont une bonne organisation, là où les autres l'auraient coupé et renvoyé en France immédiatement.
Pas forcément.
Mais par contre, aujourd'hui, techniquement, tu étais en train de parler de la technique de Tipeee. Aujourd'hui, Tony Parker, il faut pas oublier qu'il fait 1m88. Aujourd'hui, tous les mecs de la ligue, ils font ce fameux teardrop, ce fameux drop shot. Pour moi, c'est lui qui l'a démocratisé en NBA parce qu'il prenait un écran type Duncan en tête de raquette, qu'il était trop petit pour aller finir sur la gueule des babars. Donc, il a inventé cette espèce de tir en cloche, ou sinon...
Inventé, non, mais effectivement, démocratisé,
oui,
c'est mieux.
Il a totalement démocratisé.
Ou sinon, il allait s'éclater comme d'hab. C'est juste
oui,
ça.
Mais pour moi, Duncan, ça fait pas de toi un bon joueur.
Après, on sait pas ce qu'il aurait donné dans une autre franchise. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aux Spurs, les trois étaient monitorés par Popovich, jouaient 33 minutes par match, avaient donc des stats en baisse par rapport à leur capacité, c'est-à-dire qu'un Tim Duncan, un Manu Ginobili et un Tony Parker, il y a de très très fortes chances que dans une autre franchise, ils aient des stats bien meilleures à titre individuel. Hein.
C'est sûr.
Parce qu'ils jouaient moins et c'était revendiqué, assumé par Greg Popovich, c'est probablement ce qui leur a servi à être si fort en play-off aussi, et que c'est une organisation, comme tu dis, où l'individu n'est pas mis en avant. Donc moi, j'ai de fortes raisons de penser que ces trois mecs-là, ailleurs, auraient eu des meilleures stats individuelles. Bah, franchement, C'est difficile d'imaginer l'inverse.
Bah c'est difficile,
moi,
mais
j'imagine totalement l'inverse, parce que je pense qu'on est dans un. En fait, on est dans l'optique. Il nous manquait une clé de voûte. Si vous voulez, on a eu cette clé de voûte. Maintenant, est-ce que c'était le franchise player, cette clé de voûte? Non, mais cette clé de voûte dans une autre construction, elle rentre pas en fait.
Alors, on va s'arrêter là pour le deuxième débat et on continue sur l'intronisation de Tony Parker au Hall of Fame. Vous allez me dire si dans la liste des 220 joueurs et joueuses, il y a des choses qui vous dérangent.
The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield, Massachusetts is the ultimate destination for the game's greatest talents. However, it forced a lot of scrutiny over the years, and to be honest, most of it sounds well-deserved. You may be wondering why. Among many reasons, one is that there is a lot of undeserving players in the Hall of Fame. For today's video, we have gathered a list of some of the worst Hall of Famers in the history of the NBA.
Alors, y a-t-il ce que tu as appelé une fraude tout à l'heure, Sacha, dans la liste du Hall of Fame? La liste est très longue. Alors, c'est vrai, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que les joueurs des années 50, 60, pour certains, on les connaît pas, nous, mais s'ils ont été choisis, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient très importants et ont marqué leur franchise et la NBA. Maintenant, peut-être que dans une époque plus récente, il y a des joueurs que vous considérez comme n'ayant pas leur place au Hall of Fame. Est-ce qu'il y en a un, Fred? Oui, il y en a forcément un, parce que je vous ai demandé.
Tu nous as demandé, et j'étais très fâché de cette question, parce que me dire qu'il y a des fraudes dans ce, qu'on, ce qui est la crème de la crème...
péjoratif.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça,
donc,
ça m'a un peu choqué.
Je
ne suis pas Sacha, et donc ça m'a beaucoup énervé. Donc j'ai réfléchi, j'ai cherché pendant une heure, pour te dire la vérité, et finalement, je me suis rabattu sur Yao Ming.
Alors, ça, c'est...
On rappelle que la semaine dernière, tu l'as encensé.
Non, mais c'est pour ça que j'ai dit, je me suis rabattu. C'est assez simple. Donc, il a été drafté premier par Houston. Il est 8 fois All-Star. Alors, on sait un petit peu pourquoi il était All-Star et pourquoi il était titulaire du All-Star Game.
Parce que le vote des Chinois,
avait pesé très très lourd dans ça. Et il a été deux fois dans la troisième meilleure équipe NBA, d'accord. Mm-hmm. Sauf qu'il n'a joué que 486 matchs. Mm-hmm. Et c'est sur ça que moi j'ai envie de dire que c'est pas assez. Il passe une seule fois un tour de play-off, il joue 486 matchs, donc très peu de temps, et ça sur 7 saisons, 19 points, 9 rebonds de moyenne, donc des belles stats, oui. Mais pas non plus des stats fantastiques sur aussi peu de temps, sur aussi peu de matchs. Et moi ce qui m'a choqué surtout, c'est quand j'ai regardé sur Wikipédia son palmarès, champion de Chine en 2002, avec les Shanghai Sharks. Et c'est tout.
Pas mal.
Et je me suis dit, ça faisait un petit peu peu quand même. Pour,
en même temps, les Rockets sont.
Mais voilà, c'est ça, ils ont passé une seule fois un tour de play-off. Donc voilà, le nombre de matchs m'a permis de déterminer que, franchement.
Il a resté 9 ans en NBA, mais il a disputé que 8 saisons, parce qu'il y en a une qui, où il est à l'infirmerie toute la saison.
Exactement.
Ce qui fait une moyenne à peu près de 50 matchs par saison, donc, sur 80.
Donc ça, c'est peu. Il n'a pas vraiment pesé mais sur le truc,
joueur,
mais chaque fois qu'il jouait, il était bon.
Mais sauf qui avait un vrai impact sur
un
la
vrai impact, un vrai joueur de basket qui courait pour un grand, et à l'époque c'était plutôt très rare, mais c'est le nombre de matchs qui me fait dire que c'est quand même très très peu.
Il manque d'impact sur les résultats et
exactement.
Les saisons. Quoi.
T'as joué contre lui, non?
J'ai joué aux Jeux Olympiques.
Ah, alors, c'est impressionnant.
Il est très grand, il était très grand, il était très mobile surtout.
Alors Sacha, qui as-tu choisi dans cette longue liste de joueurs?
Moi, j'ai pris Paul Pierce.
Pourquoi vous rigolez? Il a bénéficié de l'organisation des Boston Celtics, bien sûr. Entendu, pour être champion.
Eh ben oui.
Vas-y,
Paul Pierce. Donc Paul Pierce, c'est un titre avec les Celtics de Boston, un MVP des finales.
Waouh, quel joueur incroyable!
Avec Fernando.
Et c'est à peu près tout en vrai de vrai. C'est le problème, c'est ça, c'est qu'en fait Paul Pierce, c'est un joueur qui a passé quasiment toute sa vie chez les Celtics de Boston. Il est drafté en 98, il va les quitter en 2013. Il se retrouve en fait en lieutenant un petit peu d'Antoine Walker pendant un long moment, et puis ensuite il prend les responsabilités shoot. De toute façon, c'est une équipe qui joue rien concrètement, ils sont nuls, il prend tous les ballons, il shoot. Il a quand même cette combativité qui fait qu'il est très apprécié des Celtics, mais finalement en fait ça reste un joueur qui a pris le titre parce que Garnett et Ray Allen sont arrivés avec lui. Sinon individuellement, c'était juste un mec qui, comme tu le disais, individuellement faisait des stats, ce qui fait qu'aujourd'hui il est Hall of Fame parce qu'il a tellement fait de stats tout seul qu'il servait à rien. C'est qu'à un moment donné il est rentré je crois 35e meilleur
mais
sport.
Mais vous avez un problème Paul Pierce, c'est toi ou...
Mais
parce non, que là tu l'as désingué pour...
Mais attends, mais Paul Pierce à l'époque il fait face à des mecs, c'est des Carter, c'est des McGrady, c'est des Kobe, etc. Enfin il est en dessous de tous ces mecs là à mes yeux. Après ce qui joue pour lui c'est qu'il est hyper clutch et qu'en playoff il fait des choses intéressantes et qu'il défend souvent sur les meilleurs joueurs adverses. Pour moi le meilleur joueur des Celtics à cette époque là c'est Kevin Garnett, je l'ai déjà dit. Il a remontré son côté non. clutch avec les Wizards. On s'en rappelle en playoff, c'était contre Atlanta d'ailleurs, où ça a été très très chaud. Et puis après, il disparaît un peu chez les Clippers. Et on voit à la fin de carrière de Paul Pierce que c'est pas un joueur qui a été finalement si marquant par la NBA. Quand il prend sa retraite, quand c'est sa dernière saison, tout le monde s'en bat les steaks. Draymond Green est le premier à le dire. Il dit c'est pas The Last Dance, t'es pas D-Wade, t'es pas je sais pas qui. Tout le monde s'en fout de toi. Et je pense que c'est une réalité. S'il avait pas eu ce titre.
Mais c'est vrai que Draymond Green, il dit que des vérités en comparaison. Non, c'est bien de citer Draymond Green.
Je ne suis pas fan de Draymond Green. Il a pris son tarif tout à l'heure, mais je trouve que Paul Pierce, c'est très généreux pour lui parce qu'il n'a jamais fait une All-NBA First Team. C'est un mec qui a fait quelques All-Stars. Enfin, voilà, c'est un très bon joueur. C'est un joueur de calibre All-Star. Pour moi, c'est pas un Hall of Famer.
Ouais, mais je pense qu'encore une fois, tu es trop dans la magnifique. Tu es trop dans la personnalisation du sport collectif. C'est-à-dire qu'un mec qui passe 15 ans dans la même franchise à 20 points de moyenne, que tu considères comme un tocard parce que cette franchise-là, dans cette période-là, n'est pas, ne joue pas les premiers rôles, moi, ça me dérange. Mais bon, c'est...
Enfin, c'est trop...
Pourquoi est-il entré au Hall of Fame ? Parce que cette équipe de Boston a marqué les esprits. Ray Allen, Paul Pierce, bien Kevin sûr. Garnett, ils ont fait un truc qui semble être de l'ordre du cheat code, mais qui ne l'est pas en vérité, puisque personne n'y arrive jamais de rassembler trois mégastars et d'être champion. Finalement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et cette équipe-là, bah, elle a fait ce dont rêvent tous les managers impatients de NBA. Bah, eux, ils ont réussi. Et je pense qu'il a eu quand même une énorme part dans la réussite de cette équipe, quand même, Paul Pierce. Je pense que c'est pour ça.
Troisième Celtic, ça a marqué 20 000 points dans la même franchise aussi. Hein.
Dans la franchise. Dans l'une mythique. Des deux franchises.
Je vous invite à regarder le nombre de joueurs qui sont restés longtemps au Celtic. Vous allez voir que c'est pas anodin en fait.
Après, est-ce qu'il a pas eu cette place aussi au Hall of Fame parce qu'il avait l'impact offensivement, il était capable de mettre des points, mais aussi défensivement, comme tu l'as dit, la plupart du temps c'était lui qui prenait le franchise player adverse. Les mecs que tu as cités comme T-Mac ou comme Vince Carter, offensivement c'était monstrueux. Défensivement, bon, c'était pas cata, mais ils avaient jamais le leadership en défense. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a.
Mais Sacha, il respecte pas les défenseurs, c'est ça le problème.
Mais c'est pas vrai. Mais c'est
attendez, il respecte que les scoreurs. Voilà,
un
point de moyenne sur plus de 1300 matchs quand même.
Juste, je vous reprécise, il défend sur des bons joueurs, mais il y a Tony Allen dans son équipe à ce moment-là aussi. Donc la défense, c'est pas que lui qui l'a
mais
fait.
Mais c'est un sport collectif, c'est ça que.
Non, mais je veux. Bah ouais, mais attendez, je veux dire, tous les noms qu'on a cités, on sait très bien qu'ils sont meilleurs, les amis. Il faut arrêter à un moment donné. Et je veux dire, les Celtics, bon, ils restent très longtemps.
Paul Pierce,
et les Celtics, je pense aussi que c'est une franchise majeure et que ce titre-là, les gens, ils voulaient le voir. C'était un duel contre les Lakers, c'est mémorable. Et je pense que ça joue aussi à rentrer au Hall of Fame parce qu'il y a un côté historique comme
ça. Bien sûr, alors ça a été très court.
Il a expliqué en plus.
Ça a été très court, mais ils ont marqué l'histoire de ces années-là.
Paul Pierce, il marque les. Ouais, c'est Celtics qui marque ces années-là.
Oui, mais c'était le capitaine de l'équipe. C'était la figure emblématique. Geoffrey, qui est le joueur que tu as sorti de la liste.
Alors, moi, j'ai bien égrené les noms du Hall of Fame, mais j'ai pas dû remonter très très loin pour trouver un nom. C'est en 2021, un certain Chris Webber a été intronisé Hall of Fame. Alors, j'ai un immense respect d'abord. Commençons par la carrière de Chris Webber.
Alors, assume, fais comme
Sacha. Il est un hater, mais il l'assume.
Immense carrière, mais pour moi, que fait Chris Webber au Hall of Fame ? Je n'en ai absolument aucune idée. Pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un petit intérieur mobile avec des mains en or, 2m06, 111 kilos. Donc voilà, petit intérieur vraiment tronique et capable de faire jouer ses coéquipiers à la Nikola Jokic. Là, je me suis repassé des vidéos de lui. C'est quand même assez impressionnant. Il est né à Détroit, il est passé par les Wolverines de Michigan. Il a été choisi en premier choix de la draft en 93 par Orlando. Il a été échangé dans la foulée aux Warriors contre un certain Penny Hardaway. Et on peut se dire que si cet échange n'avait pas eu lieu, on aurait pu avoir une association Weber-O'Neill. Et là, dans ce cas-là, peut-être que la place de Chris Webber au Hall of Fame, pour moi, elle aurait été légitime. Bref, ça, c'est pas fait. Rookie of the Year dès sa première année, il a confirmé immédiatement le potentiel et la médiatisation qu'il y avait autour de lui dès ses années universitaires. Et durant ses 17 ans de carrière, il a jamais atteint les sommets collectifs. Alors, tu parlais tout à l'heure d'être champion de Chine pour Yao Ming.
Non, mais déjà, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en 2002, rappelle-toi la finale Sacramento Lakers de 2002.
Bien évidemment, je vais y venir.
Et le vol des Lakers et si ils passent là, ils sont champions NBA. Et toute sa carrière.
Je vais y venir. Et t'en as parlé dans un podcast récemment du fol de l'arbitrage. Mais la meilleure performance de Paul Pierce collectivement, c'est 3 fois champion de division. Bon, bah super. Il y a une seule finale de conférence. Certes, perdu face aux Lakers.
Ouais, mais il n'a pas gagné contre les Shanghai Sharks.
Mais il n'y a pas de titre NBA. C'est peut-être ça qui lui manque également. Donc, ok, il a souvent été blessé. Ok, son entente avec les méthodes de Don Nelson n'a jamais semblé idyllique. Car oui, Chris Webber, il avait ça pour lui. Il n'a jamais apprécié de jouer pivot sur des grosses séquences de jeu des Warriors. Son gros caractère lui fera même avoir une grosse altercation lors de sa dernière année à Washington. Je vous le cite, excès de vitesse, présence de marijuana dans le véhicule, bagarre avec les forces de l'ordre.
Qui est légalisé la marijuana maintenant d'ailleurs.
Oui, mais en fait.
Ça entre pas en compte dans le fait d'entrer au pot Hall of Fame.
Tu dis que c'est pas grave, mais bon. Oui, non, mais moi je préfère avoir un joueur.
Quatrième au vote MVP en 2001 quand même.
Non, mais je préfère avoir un joueur totalement clean.
Juste avant, t'as dit, il est même pas top 5 en tant que joueur, donc il est quatrième.
Quatrième, il y en a 3 devant toi.
Fini ton argumentaire.
Chris Webber, il a jamais pu exploiter son potentiel à 100%. Alors, il restera bien évidemment un joueur symbolique des Kings au début des années 2000. On se souvient de Vlade Divac, Stojakovic ou encore l'homme du crossfit Mike Bibby. Ses stats en carrière, elles sont très belles, 20 points, 10 rebonds de moyenne. Mais de Chris Webber, voilà, je me souviendrai de lui comme un joueur talentueux avec du caractère. Mais pour moi, il restera un roi sans couronne, ce qui fait que pour moi, c'est un intrus, une incongruité dans ce Hall of Fame.
Il a un point commun en fait avec beaucoup d'autres, enfin avec d'autres intrus, parce que beaucoup d'autres, ça va être très bizarre.
Avec
c'est que je pense
intrus,
que
quoi.
Sa carrière universitaire l'aide énormément. Et je pense que c'est le cas de Paul Pierce aussi. Et en fait, tu regardes dans certains membres du Hall of Fame,
ils incitent c'est vachement important. Sur la carrière universitaire, tu vois.
Mais c'était important. On se rend pas compte, c'est que ça a beaucoup évolué par rapport à ça, par rapport à la carrière universitaire, mais à l'époque-là, mais... la carrière universitaire avait un vrai poids dans
c'est vrai,
dans
mais imaginez c'est le Hall of Fame NBA, c'est ça
Hall of Fame, les gens qui ont marqué les esprits, en fait, avec ou sans titre, c'est pas la question, et Chris Webber.
Moi, dans mon imaginaire,
sa notoriété, comparée à ce que tu viens de nous décrire, c'est vrai, son palmarès qui est faible, voire inexistant, sa notoriété est énorme. Et c'est ça qui compte, en fin de compte.
Oui, incroyable. Tout le monde se rappelle de lui.
Dis-nous un mot du joueur, Fred.
Ah, moi, il l'a dit, un joueur très tonique, très intense, qui montait au dunk, qui était très trash talker. Un joueur qui m'a marqué. Donc, moi, ça ne me choque pas du tout qu'il soit au Hall of Fame.
Bon, bah, s'il t'a marqué, dans ce cas-là, ça. Non, mais tu vois, les joueurs. Qui a dit ça au début, les joueurs de Hall of Fame, exactement. Il faut avoir marqué la NBA.
Exactement.
De
moi, je pense qu'il a marqué la NBA.
De par son jeu, il n'a pas marqué la NBA.
Je pense qu'il y a des joueurs actuels qui parlent de Chris Webber encore. Vraiment.
Mm-hmm. Okay. Et je t'avoue, j'ai eu la même réaction que toi, Fred, quand j'ai entendu le nom qui nous a sorti du chapeau. Je suis tombé de ma chaise.
Oui, ouais, c'est vrai.
Parce que c'est vrai qu'il n'a pas de titre, qu'il n'a même pas marqué vraiment des finales, etc. Mais tout le monde se souvient de Chris Webber quand même.
C'est qualité.
Bien. Vous allez vous départager dans un quiz spécial Hall of Fame. C'est parti.
Et alors là, je suis très content de ma trouvaille.
Je tournerai en rond et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
Coco Kukoč,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Attaque de filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage. Qu'est-ce que c'est ton problème, hein?
Esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier, oui. L'esthéticienne débronzée.
On a... C'est Christian, l'esthéticienne. C'est Christian Wood.
Alors, le GOAT du quiz de Stephen Brown n'est pas là, il y a un titre à prendre. Hein. Donc, est-ce que c'est un titre qui aura moins de valeur?
C'est bon, ça
je pense que Sacha pour doser là-dessus la semaine prochaine.
Enfin, non, c'est pas ça. Sacha, s'il gagne, il dira que c'est magnifique. Et si c'est les autres, il dira que c'est nul.
Allez, on y va. Ça. C'est un quiz spécial Hall of Fame dans la promo 2023. Comment s'appelle? Qui est la seule femme à entrer Hall of Fame dans cette promo?
Becky Hammon,
absolument première femme assistant coach en NBA. Donc, Greg Popovich aux Spurs. Double championne de la WNBA. Becky Hammon, premier point pour Sacha.
On est un peu triste parce qu'on pensait que Popovich allait partir et laisser sa place à Becky Hammon, finalement, elle a été obligée de repartir en WNBA, ce qui n'a rien de honteux, évidemment, mais ça aurait été un symbole fort de laisser être coach d'une équipe NBA.
Deuxième question, quel joueur des Lakers,
Pau Gasol,
intronisé en 1959, est considéré comme la première grande star de la NBA?
Jerry West.
C'est pas Jerry West,
tellement
c'est avant
vieux.
Jerry West.
Avant Jerry West.
Ouais.
Jerry West.
C'est un big man de 2m08. Et alors, il a une
Baylor.
Influence... Non. Considérable, George Mikan, absolument, sur la NBA, puisque
j'adore
c'est
l'histoire.
À cause de lui
que
la règle du goaltending a été introduisée, c'est-à-dire qu'il était tellement dominant au contre que bien on a inventé cette règle d'interdiction de contrer le ballon en phase descendante.
Mais est-ce que tu sais qu'il a inventé le Mikan drill et c'est toujours utilisé?
Ben,
en fait, c'est un des mouvements de préparation d'entraînement pour les big men. C'est toujours utilisé à l'heure actuelle.
On aurait dit un nom de burger chez McDo, tu peux le redire? Le
Mike and Drill.
Je sais pas.
Le Mike and Drill.
Mike and Drill. Pour être un bon menu McDo. Quatre fois champion quand même, 50, 52, 53, 54. MVP en 53.
Ouais, mais pas si terrible parce que bien entouré. Et une grosse structure de Los Angeles.
Bon, en attendant, ça fait quand même 2 points pour Sacha, hein, qui connaît quand même sa NBA. Hein.
Allez, Fred.
Alors, je vous donne des noms de joueurs qui sont au Hall of Fame et vous allez me trouver leurs points communs. D'accord, ce sont des joueurs différents, d'époques différentes qui ont un point commun. Patrick Ewing.
Ils n'ont pas de titre.
C'est pas ça le point commun. Kareem Abdul-Jabbar. Donc,
ils ont fait une finale NBA. Ils ont perdu une finale NBA.
Non.
Ah, mais non, Abdul-Jabbar, non.
Patrick Ewing, Kareem Abdul-Jabbar. David Thompson, c'est pas le point commun. Larry Bird.
Ils ont tous leur maillot retiré dans la franchise.
Scottie Pippen, tu y es presque.
Ils ont tous le 33.
Et Alonzo Mourning, numéro 33, magnifique.
Voilà,
il est là, Sacha. Bravo, Sacha. Passe d'ess. Mais la bonne réponse, c'est Sacha qui l'a.
Ouais, non.
Donc
non.
Ça fait 3-0 quand même. Et là, attention, on va enchaîner avec. On a prononcé leur nom tout à l'heure. C'est Sacha qui a prononcé leur nom. Mais c'est comme c'est une époque lointaine, parfois on s'embrouille, on a l'esprit brumeux. Et donc, on va mettre au clair.
Non.
La question est la suivante. Bob Cousy ou Bob Pettit? Deux joueurs différents, très différents, intronisés tous les deux en 1971. Ok ? Intronisés en 1971, donc qui ont arrêté leur carrière bien avant. Alors, Bob Cousy ou Bob Pettit, ça, on démarre avec Fred Weiss. Je suis meneur de jeu.
Cousy ?
Bob Cousy, bien sûr. Geoffrey Charpille, j'ai fait toute ma carrière aux Hawks.
Bob Petit.
Bob Petit, bien sûr, champion en 1958, c'était les Hawks de Saint-Louis et non pas d'Atlanta. Bob Cousy, lui, évidemment, c'est Boston. Alors, ça fait un point pour Jojo.
Mauvaise équipe, ça.
Mais très belle franchise.
Sacha, mais très belle franchise.
Je suis le premier MVP de l'histoire. Le premier MVP de l'histoire.
Bob Pettit.
C'est Bob Pettit en 1956. Il l'a été également en 59. Fred, j'étais considéré comme le meilleur joueur offensif de l'histoire de la NBA avant l'avènement de Will Chamberlain.
Cousy.
Eh bien non, c'est Bob Pettit, justement. Hey, oui. Cet intérieur incroyable avec des mains en or, mais qui était surtout, surtout un offensif plus qu'un défenseur. Geoffrey, ma mère est française, institutrice à Lyon.
Oui, Bob Cousy.
Bob Cousy, absolument. Père militaire né à Belfort, qui était alors allemand, immigré aux États-Unis un an avant sa naissance. Deuxième point pour Jojo. Et enfin, mon cher Sacha, à 13 ans, une fracture du bras droit m'oblige à utiliser mon bras gauche, ce qui m'a permis d'être ambidextre et d'avoir cette dextérité incroyable.
Dire Bob Cousy encore.
Eh bien, c'est Bob Cousy encore, absolument. Donc Sacha, c'est un 100%. Tu as 5 points, Geoffrey 2 points, Fred 1 point. Et on enchaîne. Alors, j'ai plus beaucoup de questions, donc je pense que ça va être difficile de rattraper Sacha. Quel membre du Hall of Fame est double champion d'Europe, double champion du monde et double vice-champion olympique en 88 et 92?
Double champion Raja. D'Europe.
C'est pas Dino
Tony
Raja.
Kukoč.
Tony Kukoč. Kukoč. Fred,
oui, bien sûr.
Tu direct, tu vois.
Eh oui. Non.
Et Vlade Divac, tu es triple champion d'Europe. Ouf. Encore, ouais. Un plus gros palmarès encore que.
Pas ouf.
Que Tony. Ouais,
il a failli être choisi d'ailleurs par Sacha.
On va terminer pour l'honneur avec une charade. D'accord.
Yes.
Parce que c'est Sacha qui remportera ce quiz sans le GOAT. Donc c'est le titre de
Baby
99
goat.
Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est la bulle. C'est la bulle. Mon premier recouvre le matelas. Mon second est très détendu.
Drazen Petrovic.
Mon troisième est un pivot français qui a joué à Pau, Seattle, le Thunder, les Nuggets.
Petro.
Et mon quatrième est un médicament contre le rhume. Drazen Petrovic, bravo, intronisé Hall of Fame en 2007.
Chief, merci.
Bravo. Sacha, tu remportes ce quiz. Je vous rappelle qu'il y a un épisode bonus avec Alexia Charcoro à l'occasion de la finale de l'Eurocoupe féminine entre l'ASVEL et Galatasaray. À la semaine prochaine.
Ciao.
RMC Basket Time.